Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Quand on est anorexique, et ça je peux le dire à des personnes qui sont justement en pleine anorexie et qui ne se rendent pas compte, après coup, elles vont se rendre compte qu'elles ne contrôlent rien du tout. Au contraire, c'est la maladie qui les contrôle. Elles pensent contrôler les choses, et moi aussi, je pensais tout contrôler. Mais c'est, on perd totalement pied et on ne s'en rend pas compte.
Dans l'interview d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Clara, une jeune femme de 20 ans, étudiante et passionnée par la musique. Dans cette interview, nous discutons de son parcours de vie et notamment de la difficulté qu'elle a à lâcher prise, de la pression sociale à réussir, du fait de devenir adulte, mais aussi de son rapport à la maladie dont elle souffre, qui est l'anorexie. N'oublie pas que si tu souhaites toi aussi partager ton parcours sur le podcast, les places sont libres, tu n'as qu'à m'envoyer un mail pour que l'on puisse en discuter ensemble. Mais pour l'heure, nous allons écouter Clara nous parler de son histoire. C'est parti. Vous écoutez Alors bonjour Clara, bienvenue sur Bouteille à la mer, je te remercie de participer à cette interview. Pour commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
Bah, merci à toi, du coup moi c'est Clara, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en sociologie, donc en L1 sociologie.
Ouais.
Voilà, bon, si on peut parler de ce que j'aime dans la vie, on va dire que bon, on va dire comme un peu tout le monde, j'aime beaucoup la musique, mais bon, enfin là pour le coup, c'est vraiment une passion pour moi. J'aime bien, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, toucher un peu à tout ce qui était artistique, donc l'écriture même de musique ou le chant, les choses plutôt artistiques, j'aime beaucoup.
Ouais.
Et voilà.
Super. Alors, comme tu le sais, j'imagine, cette interview, c'est une espèce de rétrospective de ta vie. Et on commence, comme d'habitude, par le début, par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, comment tu étais quand tu étais enfant ?
Alors, déjà, quand j'étais enfant, j'étais une petite fille très, très, très timide et très renfermée sur elle-même. Donc, j'étais toujours toute seule, toujours la tête dans la lune. Je me souviens à l'école que les professeurs n'arrêtaient pas de dire « Oui, mais Clara, écoute pas en cours et tout. » Parce que bah oui, j'étais… c'est pas que… Si, bon, on va dire que oui, je n'écoutais pas, mais j'étais vraiment dans mon monde,
d'accord,
dans mon imagination, à me créer des petits univers, vraiment toute renfermée sur moi. Et j'ai toujours eu ce tempérament très solitaire. Et ça ne me dérangeait pas du tout parce que j'adorais être seule et j'avais un petit peu cette peur des autres d'un côté. Et cet univers que je m'étais créé, je m'étais vraiment confortée dedans et voilà, j'étais toujours la tête dans la lune, dans mon petit monde, quoi.
Une enfant rêveuse, quoi. T'étais déjà un petit peu artiste, finalement. T'étais un peu dans
ouais,
ton
je
monde.
Je pense que c'était un peu un terreau artistique parce que depuis toute petite, je me souviens que j'aimais bien même écrire des chansons, créer des personnages. Je me souviens aussi que même pour des choses simples comme quand je jouais avec mes poupées, bah moi, je n'aimais pas les vêtements qu'on donnait aux poupées. Je les faisais moi. Bon, c'était, voilà, c'était ce que c'était, mais je me mettais un peu à la couture. J'aimais bien bricoler des choses, faire un peu des choses de moi-même, quoi.
Et est-ce que tu as eu le sentiment, quand tu étais plus jeune et même par la suite, d'avoir eu une éducation pour filles à cette époque-là? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une éducation genrée?
Pas vraiment. Après, peut-être que mes parents eux-mêmes étaient sûrement influencés par le fait que les filles doivent jouer aux poupées, etc. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote que m'avait racontée ma mère, ou qui me disait que quand elle m'amenait dans les rayons des jouets, un jour, elle m'avait donné une poupée dans les mains, je l'ai jetée par terre, j'ai dit non,
Ah
moi je
bon?
veux un ballon. Oui. Après, mes parents m'ont toujours laissé le choix. Si un jour je voulais jouer avec des voitures, des choses comme ça, ce qui était catégorisé comme pour les garçons, ils me laissaient faire. J'avais pas ce truc-là. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment eu cette impression. Après, sûrement qu'il y a des injonctions de la société qu'on a un peu tous vécues et qui nous ont un peu tous marqués.
Oui, bien
Mais
sûr. Il y a des choses aussi qui sont inconscientes dont on ne se rend pas forcément compte, c'est
oui,
normal.
totalement.
La seconde période dont on va parler, c'est l'adolescence, parce que on ne peut pas faire l'impasse dessus. Comment tu l'as vécu, toi?
Alors, l'adolescence, j'en ai pas vraiment de souvenirs. J'ai l'impression que c'était assez fluide.
D'accord.
L'enfance est passée à l'adolescence, donc j'en ai pas vraiment de souvenirs avec une sorte de rupture. Je me souviens que je suis arrivée au collège, etc. Donc voilà, j'ai pas vraiment senti de différence et je me souviens même pas avoir fait de crise d'adolescence à
D'accord.
proprement parler. Je pense que j'ai sûrement eu une période un peu, oui, où j'essayais d'être un petit peu rebelle peut-être, mais et encore, je sais pas trop, mais. Même quand j'ai demandé à mes parents, ma mère m'a dit qu'elle ne se souvenait pas spécialement que j'avais une crise d'adolescence ou une chose comme ça. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas mal vécu mon adolescence. Mais bon, bien sûr, la période du collège n'est pas une période facile, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde.
Oui, j'ai l'impression aussi.
Ouais, je pense qu'on se construit un petit peu, on se pose un peu des questions, on cherche et on est parfois méchants entre nous, les. Ouais, je pense qu'on est un peu méchants entre nous, les adolescents, mais ça reste une période que j'ai pas vraiment, où j'ai pas vraiment vu de coupure. C'était assez fluide en fait avec mon
Ouais,
enfance.
t'as pas vraiment eu de, comme tu dis, de cassure entre le monde de l'enfance et l'entrée dans l'adolescence, c'est ça?
Exactement, ouais.
Et comment tu as vécu du coup ton rapport au corps à ce moment-là?
Alors, mon rapport au corps, c'est quelque chose qui est très très compliqué puisque bon, maintenant je ne le cache plus parce que de toute façon je ne peux plus le cacher, mais je suis anorexique, je suis en
D'accord.
rémission d'anorexie parce que j'essaie vraiment de m'en sortir et je ne suis plus du tout dans ce que j'ai pu être justement, ce qui a démarré à la période de l'adolescence.
Toutes mes félicitations.
Et, ouais, c'est vrai que ça a commencé, c'était un long cheminement et je suis toujours en train de me battre contre ça, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est vrai qu'à l'adolescence. Par ailleurs, en fait, j'avais un rapport au corps qui était totalement déconnecté. Je m'en fichais complètement.
D'accord.
Oui, je m'en fichais en fait. Je n'avais pas encore ce truc de ah, il faut être maigre, il faut ressembler à ça, cette fille dans le magazine, etc. On m'a même d'ailleurs, on m'a jamais dit que j'étais trop grosse. Justement, on m'a plutôt dit que j'étais quelqu'un d'assez mince. On m'a même fait des compliments. Sur mon corps, mais même ces compliments, je m'en fichais un petit peu à la base. C'est par la suite où je ne sais pas vraiment comment ça s'est installé, mais je suis tombée dans la maladie. Donc c'est vrai que mon rapport au corps, il est assez compliqué. Maintenant, ça va mieux puisque j'essaie de m'en sortir. Mais c'est quand même, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. On a toujours une
Oui.
relation très, très compliquée avec mon corps et ouais, c'est vrai.
Oui, je comprends complètement. Et c'est à partir de l'adolescence que tu as commencé à entrer dans cette maladie ou ça s'est fait plus tard?
Je pense que ça s'est fait vers la quatrième ou la troisième, parce
D'accord.
que c'est venu vraiment petit à petit et j'en ai vraiment pas vu. C'est très vicieux, ça vient petit à petit et on voit pas vraiment le point de départ. Et ouais, c'est vrai que c'est très vicieux, mais je pense que c'est arrivé dans cette période-là,
D'accord.
vers l'adolescence, fin collège.
D'accord. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de courage et bravo pour ta rémunition.
Merci.
C'est très, très encourageant. Et tu as vraiment tout mon soutien. Vraiment.
Merci, c'est gentil. Bah, d'ailleurs, si je pourrais ajouter quelque chose
Bien
à
sûr.
toutes les personnes qui subissent cette maladie, ou peu importe la maladie mentale, parce qu'on c'est des choses un peu invisibles qu'on ne voit pas forcément, je leur souhaite vraiment tout le courage du monde, et il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faibles, que c'est une maladie comme une autre, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide parce que c'est important. Il ne faut pas
Absolument.
avoir peur, on peut toujours trouver de l'aide quelque part, même si ce n'est pas là où on l'attend spécialement. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, même quand on pense que tout va mal.
Absolument.
Vraiment.
Et je ferai en sorte de mettre des liens, des informations, tout ce que je peux trouver dans la barre de description de cet épisode.
Oui.
Si jamais d'ailleurs tu as des choses à me partager, tu me les enverras avec plaisir,
Ouais, pas de souci.
parce que ça peut être utile. Donc, merci d'apporter ton témoignage. Merci beaucoup.
Merci.
Quel a été ton parcours après le lycée, après toute cette période-là, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, après le lycée, bah du coup, c'est vrai que la fin lycée, ça a été un peu spécial niveau scolarité parce que j'ai été déscolarisée, j'ai été au CNED. Donc,
D'accord.
c'est vrai que je n'étais pas vraiment dans le cadre du lycée, quoi. Donc, c'était plus chez moi. Et puis, surtout qu'il y a eu la période de la crise sanitaire, c'était vraiment très, très bizarre.
Oui, ça c'est sûr.
Oui, c'est vrai que c'était assez bizarre au niveau des études. Mais par la suite, après, je suis arrivée au stade fatidique de Parcoursup, qui là m'a un peu mis au pied du mur, puisque j'ai tout. Enfin, depuis le collège, je ne me suis jamais posé de questions. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? J'ai toujours eu des idées de métier, ça me passait. Enfin, je ne me mettais pas vraiment de pression, alors que des fois, je voyais mes amis qui, eux, se posaient parfois beaucoup de questions sur ce qu'ils voulaient faire, etc. Et moi, j'étais là, bah, je verrai bien, je verrai bien. Puis quand j'arrive à Parcoursup, je me dis, bah oui, mais je fais quoi du coup? Parce que je sortais d'une filière, donc à l'époque c'était LS et ES. Moi
Ouais,
j'étais en L, en
d'accord,
littéraire.
ok.
Et je me suis dit, bah, je vais m'orienter vers des choses plutôt littéraires du coup, mais ça ne me dit pas plus où je vais aller. Donc j'ai un peu complètement mis des choix un peu au hasard. J'ai mis des choses qui m'intéressaient, qui m'avaient l'air bien. Les langues, la sociologie, la musique, même si je ne savais pas spécialement où j'allais. Et bon, un peu par hasard, j'ai fini en sociologie et je suis toujours en sociologie actuellement.
Donc ouais, c'est ce que j'allais te dire justement sur ma prochaine question. Cette année, tu as entamé ta première année, donc si je ne me trompe pas, hein, de sociologie à l'université. Est-ce que du coup, il y a un choix particulier que tu as fait pour entamer cette filière ou c'était vraiment un pur jeu de coïncidence avec ce que tu aimais et ce que tu avais sélectionné sur Parcoursup?
Ben, à la fois, je pense que c'est un jeu de coïncidence parce que j'ai choisi, comme je t'ai dit, par dépit, parce
Ouais.
que j'avais pas quoi faire. Mais d'un côté, je pense que j'ai toujours eu cette fibre, ce qui est assez paradoxal, cette fibre sociale, tout en étant très, très ouais, en moi-même, à être très renfermée.
Ouais.
Mais justement, je pense que c'est pas incompatible parce que comme j'étais très renfermée et même si je suis beaucoup moins timide maintenant, je sais que quand j'étais petite, j'observais beaucoup autour de moi.
Ouais.
Donc, je ne parlais pas beaucoup, j'étais beaucoup renfermée, mais j'observais beaucoup. Et je remarquais aussi beaucoup de choses. Donc, ça fait que j'analysais beaucoup de situations, comment les gens fonctionnaient, comment ils pensaient et comment ils communiquaient leurs émotions. Donc, je pense que d'un côté, cette fibre sociale, je l'ai toujours un peu portée en moi et que ça m'a peut-être un peu guidé inconsciemment dans ce choix, je pense.
Certainement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est un peu dans notre tête et un peu, comment dirais-je, peut-être introverti, je ne sais pas si c'est le mot, on a tendance à, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, s'intéresser beaucoup aux autres parce qu'on les observe, comme tu dis. Et c'est vrai que j'étais un petit peu comme ça quand j'étais petite aussi. Et on a tendance à penser que ces personnes-là sont renfermées sur elles-mêmes et ne s'intéressent qu'à elles, alors qu'au contraire, j'ai le sentiment, comme tu en parles très bien, que... Au contraire, on observe beaucoup et on analyse beaucoup les comportements des autres. C'est intéressant. Et
Oui,
c'est
c'est
ça, du coup,
exactement ça.
qui t'a amené vers ce choix de la sociologie.
Oui, je pense. Et après, je ne sais pas si ça a contribué aussi, ma mère, elle est aide à la personne et elle a toujours travaillé surtout avec des personnes âgées, des personnes un peu vulnérables qui se confiaient parfois beaucoup. Et peut-être qu'aussi inconsciemment, j'ai porté ça en moi. Et,
Oui, bien sûr.
et j'ai... D'ailleurs, j'ai toujours admiré ça parce que c'est vraiment pas facile comme métier. Et,
Ça, c'est sûr.
c'est vrai qu'il faut être à l'écoute des autres quand on fait ce genre de métier. Et on ne dirait pas, et c'est vrai. C'est vrai que...
Oui, certainement, ça t'a certainement influencé. J'aimerais bien qu'on discute ensemble d'un sujet que tu m'as beaucoup mis en avant dans ton mail, et c'est, ça fait partie des thématiques principales dont on avait discuté. Tu m'as parlé de la vie d'adulte, entre guillemets, et tout ce que ça implique de, comme chamboulement de rentrer dans cette vie d'adulte-là. Je le rappelle, hein, tu as 20 ans, donc tu commences à te poser un petit peu des questions sur le sujet. J'aimerais te demander, de manière générale, qu'est-ce que ça représente pour toi de devenir adulte?
Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que sans entrer dans les clichés, bah, devenir adulte, c'est avoir des responsabilités. Et même si j'ai 20 ans, je ne considère pas que je suis très mature non plus. J'ai la maturité de mon âge, on va dire.
Oui, bien sûr.
Actuellement, je suis en appartement, donc forcément, il faut avoir des responsabilités, soit de la paperasse, de tenir son appartement propre ou toutes les choses comme ça du
oui.
quotidien qu'on ne pense
ouais.
pas quand on est chez ses parents, puisque ce n'est pas nous qui gérons ça.
Bien
Et quand
sûr.
On est dans un appartement, on est obligé de gérer tout ça, de gérer son emploi du temps, gérer plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu un chamboulement parce qu'on ne sait pas où donner de la tête, on se sent un peu... submergée partout, par toutes ces choses qui sont compliquées de base, je pense, pour même les personnes qui ont l'habitude. Mais quand on n'y connaît rien, on est encore plus perdu dans tout ce que ça implique et de tout ce qu'on nous demande, que ce soit, je ne sais pas, des administrations, des adultes, parce que maintenant, on est considéré comme des adultes. Et même si, comme je te disais, je ne me considère pas encore adulte, j'ai l'impression qu'on demande des choses de moi que je ne suis pas encore en âge, entre guillemets, de comprendre.
Ouais.
Et ça demande un petit peu de la... Ouais, c'est un peu de pression parce qu'on se dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais je ne sais pas comment faire. C'est vrai que c'est un peu du stress, mais c'est de l'apprentissage d'un côté. Donc, c'est normal, ça fait toujours un petit peu peur.
Donc, pour toi, vraiment, j'ai le sentiment qu'être adulte, ça rime beaucoup avec la pression. Et
ouais,
avec cette espèce d'apprentissage de choses qu'on ne nous a pas appris, en fait.
Oui, c'est ça, parce qu'on apprend sur le terrain. Et oui, on est jamais préparé à ça, même si nos parents nous en parlent. Il faut faire attention à ci, à ça, quand tu seras plus grande. Oui, on entend ça, on écoute, on dit oui, c'est vrai. Mais bon, une fois qu'on est dans l'action, c'est pas pareil, c'est plus compliqué, quoi.
Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet donc, de la pression et tout ce qu'on dit, est-ce que tu trouves justement qu'on se met la pression, notamment à l'entrée de la vingtaine, pour correspondre à ce qu'on attend d'un jeune adulte ou d'une jeune adulte? Tu m'as par exemple parlé de la pression à la réussite, que j'aimerais bien qu'on aborde. Comment tu vois les choses, toi?
La pression à la réussite, c'est vrai que... je t'en ai parlé, mais c'est quelque chose que... On vit peut-être tous différemment, puisque je pense
Bien
qu'il y a
sûr.
Des personnes, des parents ou d'autres personnes de leur entourage qui les poussent à réussir, à même forcer à faire des études qu'ils n'ont pas nécessairement envie. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé le choix de faire ce que j'avais envie de faire, qui ne m'ont jamais vraiment dit clairement ils m'ont dit il faut réussir à l'école parce que l'école, ça va t'aider à t'ouvrir des portes, à avoir un bon métier, à pouvoir te construire la vie que tu as envie de mener. Donc, toujours depuis que j'étais petite, j'ai fait en sorte de bien travailler à l'école. Mais ils ne m'ont jamais non plus mis une pression de fou, sachant que mes parents, ils viennent d'un milieu où c'est pas, ils sont pas nécessairement... ils n'ont pas les armes face à l'école, pas forcément des connaissances... que requiert l'école, quoi. Ils n'ont pas fait
un
des
milieu
études.
Plus ouvrier.
Oui, voilà, c'est vrai que dans mon entourage, même mon frère, c'est pas qu'il n'est pas allé loin à l'école, mais il a fait la base. Après, il est parti dans des choses plutôt manuelles.
D'accord.
Et Et moi, au contraire, je pense que j'ai... C'est pas que je me suis fermée au manuel, mais j'ai toujours été, comme j'étais toujours dans ma tête, comme je disais avant, je réfléchissais beaucoup. Et au final, l'école, ça m'a pas posé énormément de difficultés. Bon, j'étais pas non plus hyper forte, quoi. J'étais pas surdouée ou des choses comme ça, mais je travaillais bien et je faisais en sorte d'avoir des bonnes notes. Donc, réussir pour moi, ça a toujours été important parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste aussi. J'aime quand les choses sont faites et bien faites. Donc, même si les professeurs ne me disaient pas, ne me mettaient pas de pression, ne m'engueulaient pas pour travailler, quand il y avait un travail à faire, je le faisais, ne serait-ce que pour moi, parce que je me disais, il faut que je réussisse, il faut que je fasse ça. C'est important. Et cette pression de la réussite, en fait, je me l'assumais complètement toute seule,
D'accord.
sans vraiment, même si bien sûr, il y a la société qui nous dit, c'est vrai que c'est un peu cliché, mais qui nous dit, oui, il faut réussir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai toujours considéré que je devais réussir parce que je devais réussir et que je me mettais cette pression toute seule déjà de base depuis
D'accord.
petite.
Ok. Donc c'est vraiment toi qui, de toi à toi, finalement, t'es dit, il faut absolument que je réussisse tel objectif, dans cette vision aussi de la perfection que tu avais, en fait.
Ouais, c'est ça exactement.
D'accord. Et est-ce que ça, du coup, cette façon de voir les choses, elle s'est remise, retranscrite dans ton entrée dans la vie d'adulte aussi? Ça, parce que là, tu parles un peu de l'école et tout ça, mais au-delà de ça, quand tu as commencé à prendre ton indépendance et tout, tu t'es aussi mis la pression par rapport à tout ça?
Oui, je pense, ouais, dans la continuité, comme c'est un petit peu dans mon tempérament. Oui, je me suis toujours dit, il faut vraiment que les choses soient bien faites parce que sinon ça va mal se passer et ça fait toujours peur, quoi.
Ouais.
Et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. Donc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dans la continuité des choses, ouais, je pense que je me suis aussi mis cette pression dans le fait de bien réussir en tant qu'adulte. Ouais.
Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu en as conscience et la manière dont tu en parles, j'aurais tendance à dire que peut-être que tu aurais besoin d'apprendre à relâcher un peu la pression, justement,
Ouais, exactement.
à essayer de. C'est quoi le mot? De lâcher prise, c'est ce que je cherchais.
Lâcher prise, ouais. C'est un concept que j'essaye de mettre en place, mais c'est très, très dur le lâcher prise, mais.
Ouais.
C'est totalement ça, parce que toujours à tout vouloir réussir, sachant que la vie, bah, c'est pas un long fleuve tranquille et que forcément,
Bien
ça
sûr.
ne va jamais comme prévu. il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter et c'est difficile de s'adapter quand on a des choses en tête et que ça ne se passe pas comme on voudrait en fait.
Bah oui, puis en plus, c'est le problème aussi, c'est que tu n'arriveras jamais à avoir la perfection absolue parce que tout ne dépend pas de toi.
Exactement, oui.
Mais c'est un apprentissage. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'avec les années, tu vas forcément finir par réussir à prendre ça un petit peu plus à la légère. Et j'ai le sentiment aussi que plus on maîtrise toutes ces choses, de, par exemple, comme tu en parlais, d'entrer dans un nouvel appartement, l'administratif, etc., plus on commence à maîtriser, plus on peut aussi se dire, bon, c'est pas si grave si je remplis pas tel papier à tel moment. C'est tout un apprentissage, mais c'est faisable. Je te rassure, j'étais comme toi et c'est faisable.
Oui, je pense. Mais même maintenant, je compare par rapport à l'année dernière, même si je suis toujours très stressée, très dans le contrôle. Maintenant, il y a des choses que j'ai vécues, que je sais. Je me dis, bah, si ça, c'est pas fait, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix. Et,
voilà, c'est ça.
On apprend avec le temps, ouais, avec les leçons.
Bien sûr, c'est complètement ça. Autre chose dont on a parlé, tu m'as confié avoir, t'être souvent senti en décalage avec les personnes qui t'entourent. J'imagine notamment par rapport à cet aspect un petit peu artistique que tu as toujours eu et ce côté être tout le temps dans ta tête, dans ta bulle. Et tu m'as aussi parlé du coup de tes expériences de vie qui ne correspondaient pas forcément à la majorité de ton entourage. Déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ces expériences qui n'ont pas été communes par rapport à toutes les personnes de ton âge ? Comment tu ressens ce décalage aussi ? Et est-ce que pour toi, tu considères que c'est une force ou plutôt une lacune par rapport à ta vie en général ?
Comme je te disais, depuis que je suis petite, j'étais toujours en décalage parce que j'étais toujours toute seule dans la cour. Mes autres camarades me trouvaient parfois bizarre. Quand une personne est un peu différente ou un peu dans son coin, de toute façon, en général, c'est
elle sera toujours la bizarre, ça c'est sûr.
Voilà, c'est toujours la bizarre, c'est toujours la personne pas mystérieuse, mais bon, vu qu'on la connaît pas, on s'imagine tout et n'importe quoi sur elle ou on s'en prend à elle, surtout que les enfants ne sont pas toujours très sympas entre eux.
Ça, c'est
sûr. Mais d'un côté, c'est quelque chose que j'ai parfois pu mal vivre puisque je me suis pris des remarques ou j'ai toujours été un peu à l'écart. Je ne sais pas si on peut dire que j'ai subi du harcèlement, même si je pense que d'un côté, peut-être un petit peu.
Si tu l'as vécu comme tel, c'est du harcèlement.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de fois où j'avais la boule au ventre à l'idée d'aller à l'école parce que je savais que les autres allaient se moquer de moi. Oui, je pense qu'il y a toujours eu ça. Mais d'un autre côté, je l'ai pas mal vécu parce que j'étais bien dans ce mode de vie-là.
D'accord.
Et que j'étais bien. Et même maintenant, je me dis que même si ça a été difficile par moments, je ne regrette pas parce que j'ai l'impression que ça a été nécessaire pour suivre un chemin qui me correspond plus.
D'accord.
Rencontrer des personnes qui me correspondaient plus aussi, qui étaient aussi un peu comme moi.
Mmh.
Et de ce côté-là, être enfermée et justement dans la continuité, par exemple au collège ou au lycée, j'étais pas le type à sortir tout le temps, aller en boîte, faire des soirées. C'était vraiment pas du tout mon délire. J'aimais pas vraiment ça. Je trouvais ça même d'un côté un peu malsain des fois dans la manière dont les autres menaient cette chose-là.
Mm-hmm.
Même si maintenant, j'aime bien sortir avec mes amis, etc. Je préfère quand même les petites soirées tranquilles, chill, posées où on rigole.
Ça correspond plus à ton caractère, tout simplement.
Oui, c'est vrai que je dis pas que c'est une mauvaise chose, tu vois, mais moi ça me correspond pas en tout cas. Ça me correspond pas.
Ouais.
Et du coup, ça fait que comme j'ai jamais eu beaucoup de rapport avec les autres entre guillemets, que je sortais pas énormément, j'ai peut-être pas eu l'occasion de faire des soirées, d'avoir...
De rencontrer des gens, de lier des liens aussi avec les personnes qui sortaient. Ça reste à ce moment-là, je trouve, un moyen de se connaître qui prend beaucoup de place à cet âge-là.
Oui, mais après, d'un autre côté, ça ne m'a pas non plus manqué, mais... Oui. Parce que je pense que j'ai suivi un autre chemin. Je n'étais pas non plus totalement renfermée
en
moi-même, parce que j'avais quand même des relations, des amis, même si j'en avais pas énormément. Ça me suffisait, en fait, ça m'allait. Et ça m'arrivait de sortir, d'aller chez les copines, etc. Même de faire des soirées de temps en temps, mais ce n'était pas non plus ma priorité. Ça m'allait de temps en temps, mais je préférais quand même être bien, tranquille, avoir mes
D'accord.
moments tranquilles, tout ça. Donc, après, c'est vrai que du coup, d'un côté, peut-être que ça m'a manqué parce que quand les autres parlaient de choses qu'ils avaient vécues, qui leur paraissaient, mais bah, naturelles, comme c'était une étape à passer, bah, moi, je me sentais un petit peu comme celle qui connaissait rien, un peu la fille bah, ouais, bizarre.
Tu penses à quoi, par exemple, comme expérience?
J'ai pas d'expérience en particulier, mais je sais pas, quand un ami dit, ah oui, tu sais que par exemple on va en boîte, qu'il se passe ci ou ça, bah ça je l'ai vécu, machin, et elle dit, ah oui, moi aussi, machin. Et moi, je suis là, bah, moi, je ne vais jamais en boîte, je ne sais pas de quoi vous me parlez.
Je connais pas.
se faire recaler, ça ne risque pas, parce que je ne vais même pas me présenter. Donc,
C'est
voilà.
sûr.
Mais... Ou avec l'alcool, parce que moi, honnêtement, je bois pas énormément d'alcool. Même quand j'en ai bu, ça ne m'a pas plus chamboulé que ça. Donc, je n'en trouve pas d'intérêt. Je sais que j'ai des amis qui, des fois, on dégueule le bois, des trucs comme ça, qui... Bah moi ça m'intéresse pas ou déjà de base j'aime pas vraiment voir les gens sous l'emprise de l'alcool même quand c'est quelque chose où ils ont qui sont plutôt même joyeux j'aime pas
Ça te
voir
plaît
les gens
pas.
ouais c'est en fait mais après c'est un petit peu par rapport à mon histoire familiale je pense
D'accord.
mais j'aime pas vraiment en fait ça c'est pas que ça me fait peur mais ça provoque quelque chose en moi, un petit mal-être ou un malaise qui fait que j'aime pas voir les gens dépourvus d'eux-mêmes, de leurs capacités. Donc, déjà, ça m'intéresse pas de base, je pense. Donc,
Oui, c'est complètement compréhensible, hein. Surtout si tu as vécu des choses en lien avec avec tout ce qui touche à l'alcool, etc. J'ai souvent entendu ce genre de réflexion de voir des gens, comme tu dis, en dépossession de leurs moyens et pas tout à fait eux-mêmes. Ça peut vite mettre mal à l'aise et je comprends complètement cette vision des choses.
Après, c'est totalement personnel, hein. Je
Bien
juge pas
sûr.
les personnes qui aiment bien boire et tout parce que c'est totalement, je sais que c'est quelque chose qui renvoie à mon histoire et pas à leur histoire. Donc, s'ils sont en contrôle d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, qu'ils l'ont choisi et que voilà, que ça tourne pas à des choses malsaines ou qui se passent mal, il n'y a aucun souci. J'ai pas de souci avec ça. C'est juste que je sais que ça provoque un sentiment en moi que j'aime pas.
Oui.
Mais en soi, ça me dérange pas de voir les autres le faire.
Oui, complètement. Mais après, tu sais où sont tes limites, en fait. C'est ça.
Exactement.
Et du coup, est-ce que pour toi, ce décalage, c'est plutôt une force, quelque chose qui te permet aussi de d'avoir ta propre vision des choses, etc., ou plutôt une lacune dans ton quotidien?
Je pense que c'est les deux, en fait, ça dépend des
D'accord.
situations. C'est une force parce que bah, du coup, j'ai construit des visions du monde ou peut-être des capacités, des façons à voir les choses différentes des autres qui peuvent me
Complètement.
servir dans certaines situations.
Ça,
Donc,
c'est sûr.
qui peuvent servir. C'est vrai que le fait d'être beaucoup en soi-même peut permettre d'avoir du recul sur les choses, de plus appréhender certaines situations, de mieux comprendre les choses. Après, d'un autre côté, ben, si, c'est forcément des lacunes parce que je suis en décalage dans certaines situations et aussi ce lâcher-prise que j'ai pas et dont on a parlé, et tu as totalement raison, être tout le temps en contrôle de tout, c'est fatigant, c'est
Bien
vraiment très
sûr.
fatigant. Et même lâcher la pression, faire des bêtises, des trucs comme ça, des conneries qu'on fait quand on est jeune, bah, certes, on critique ça, on dit oui, il ne fallait pas le faire et tout, mais d'un côté,
Ça
voilà,
reste des expériences.
ça reste des expériences, même si ce n'est pas des choses recommandées qu'on dirait à quelqu'un de faire, c'est
C'est
toujours
sûr.
des expériences. Quand on voit des jeunes dans la rue faire des bêtises ou voilà, se faire remarquer et tout, on sait que quand ils grandiront, ils diront ah, mais on était bêtes quand on faisait ça, etc. Mais d'un côté, on a envie de leur dire, mais faut bien que vous passiez par là, profitez, et puis faites. De toute façon, on n'a pas la science infuse, et forcément qu'on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire, mais il faut passer par là.
Bien
Et au
sûr.
final, je pense que c'est même les meilleures périodes de leur vie. Et c'est là où ils ont les meilleurs souvenirs, parce que quand tu es toujours en contrôle de tout, bah, tu t'amuses pas, tu lâches pas la pression, et c'est quelque chose qui est nécessaire parce que dans la vie, tu as des responsabilités, tu as des choses que tu dois garder en contrôle, mais il ne faut pas non plus vivre que dans ça. C'est un juste milieu entre les deux, je pense.
Ouais, complètement. Est-ce que je vais me permettre un parallèle qui est peut-être un petit peu délicat? Est-ce que tu penses que cet aspect de contrôle qui est très présent chez toi, ça a conditionné aussi un peu ta tombée dans la maladie de l'anorexie?
Mais totalement, je pense
D'accord.
que c'est totalement. C'est ça, c'est la maladie du contrôle, hein, l'anorexie. Donc,
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
ouais, mais c'est ça. Et en plus, ce qui est aussi totalement paradoxal, c'est que quand on est anorexique, et ça, je peux le dire à des personnes qui sont justement en pleine anorexie et qui ne se rendent pas compte, après coup, elles vont se rendre compte qu'elles ne contrôlent rien du tout. Au contraire, c'est la maladie qui les contrôle. Elles pensent contrôler les choses, et moi aussi, je pensais tout contrôler. Mais on perd totalement pied et on ne s'en rend pas compte. On pense qu'en contrôlant, bah là, en l'occurrence, c'est la nourriture. D'ailleurs, ça peut être d'autres choses, hein. L'anorexie, c'est tout un pattern de choses. Mais je pense à d'autres maladies ou d'autres syndromes comme l'alcoolisme, où c'est l'alcool, ou voilà, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être plein de choses. Quand on essaie de contrôler sur quelque chose de matériel, c'est qu'en général, on est totalement en perte de contrôle de quelque chose qui est en nous, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est ça, en fait. Quand j'essaie, pareil, de contrôler ma vie, c'est que je n'arrive pas à contrôler certaines choses en moi. Et je pense que c'est totalement dans la continuité de la maladie. Ouais.
D'accord. Donc peut-être que finalement, quand tu arriveras à prendre vraiment avec toi ce lâcher prise, tu pourras aussi d'autant plus te détacher de cette maladie.
Oui.
Peut-être.
Oui.
Je te le souhaite en tout cas.
Ouais, merci.
Si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire?
Alors ouais, c'est une chose en plus qui est marrante parce que je sais que je l'ai faite quand j'étais petite et j'aimerais bien la retrouver cette lettre. Je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs.
Tu l'as faite à quel âge à peu près?
Ah, je ne sais pas, je devais être ou en primaire ou au début collège.
Ah oui, c'était il y a un moment.
Ouais, d'ailleurs, ça doit être marrant. J'aimerais bien la retrouver, cette lettre. Mais je pense que... Je me dirais, j'espère que tu arrêtes de te prendre la tête pour rien. Tu as réussi à lâcher prise et que tu as réussi à faire ce que tu avais envie de faire et juste de plus te poser de questions. Parce que... Ouais, juste arrête de te prendre la tête. Déjà, on a perdu trop de temps. Et justement, arrête de te poser des questions. Juste arrête et vis. Et ça serait ça, en fait, la lettre, c'est « J'espère que tu as arrêté de trop penser et que tu as commencé à vivre. » Parce qu'il y a trop de choses que tu as envie de faire et tu le sais que tu n'as pas le temps. Donc, arrête d'attendre. C'est le moment, c'est là où tu le crées. C'est pas, il n'arrive pas tout seul, c'est toi qui le crées, le moment. Donc, ouais, ce serait ça, je pense.
C'est quoi tes objectifs pour l'avenir?
Ben, comme je suis encore un peu perdue sur ce que je veux faire, ça va être assez flou, mais je pense justement de quand j'ai envie de faire quelque chose, de foncer et de plus me prendre la tête. Et je pense que j'ai un peu commencé ce processus, même si ça reste très, très petit, mais pour moi, ça reste un grand pas de commencer des petites choses qui me traînent en tête à les faire, à essayer de savourer plus ces choses de la vie en me disant que ça ne durera pas tout le temps. Et un exemple tout bête, j'ai toujours aimé beaucoup le chant, comme je te disais. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée pour ma timidité. Et ça a été, mais je pense que le chant, le théâtre, des choses comme ça, ça peut vraiment beaucoup aider.
Oui, absolument.
À s'exprimer et à lâcher prise. Et le chant, ça m'a aidée à m'exprimer et à être moins cette petite fille timide. Et pas à ne plus avoir cette bulle, mais justement à montrer cette bulle, à montrer ce qu'il y avait en moi. Et j'ai toujours aimé le chant. Et justement me dire, j'ai aimé le chant, j'ai déjà fait des spectacles, des représentations, des choses comme ça. Et j'aimerais bien justement lancer une petite chaîne de cover, de chaîne de chansons.
C'est une super idée.
J'ai déjà lancé ma chaîne d'ailleurs, donc ça fait un petit peu peur.
Bah, tu veux en parler peut-être?
Ouais, c'est tout tout récent. C'est, sur Instagram, c'est Clara to the Moon. Donc si tu veux, je te passerai les liens.
Ouais, avec plaisir.
C'est une chaîne que j'ai commencée et c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur de faire parce que je me sens pas hyper forte au chant non plus. Hein.
C'est un apprentissage, c'est comme tout.
Voilà, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, même si je ne suis pas la meilleure chanteuse et je le sais, ce que je fais, je sais que ça vient du cœur et j'aime le faire.
Oui.
Et c'est pour ça que je pense que j'ai autant hésité à chanter, à me dire qu'est-ce que les gens vont penser, je chante mal. Ouais, mais quand je me filme, je chante... C'est vrai que je chante je sais que je chante moins juste que quand je chante sans filmer parce que je lâche beaucoup ma prise, que j'essaye de...
Voilà, j'allais te le dire.
Oui, c'est ça, c'est que j'ose pas regarder la caméra et on sent que je suis timide, mais je sens que d'un côté, ça me fait du bien parce que je partage ce que j'ai envie de partager. Il y a plein de choses que je fais toute seule. J'ai toujours écrit beaucoup de chansons depuis que je suis petite.
Oui.
Et c'est des choses que j'aimerais partager parce que sans le garder secret, parce que je n'en parle à personne, mais comme c'est ma bulle secrète, je ne pense même pas en parler.
Ouais.
Et je me dis, mais je pense que même si ça touche ne serait-ce qu'une ou deux personnes, c'est déjà ça. Ça peut toujours toucher quelqu'un, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Au moins, si ça fait ressentir quelque chose à quelqu'un, c'est tout ce qui est important, en fait. Et c'est donnant-donnant, parce que c'est tellement gratifiant de voir qu'on peut aider les personnes avec ce qu'on aime.
Oui, ça, donc, c'est sûr. Bah, écoute, voilà, on mettra tout ça dans la description avec plaisir si les personnes qui t'écoutent veulent aller voir ça. Ce serait bien.
Ouais, c'est gentil, je te passerai tout ça.
Ouais, trop bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es heureuse?
Je ne peux pas dire que je suis heureuse, mais je peux dire que je suis en chemin de l'être et qu'en tout cas, j'envisage de l'être et je vais l'être parce qu'il faut dire qu'on va l'être.
Exactement.
Il faut s'en persuader nous-mêmes. Et je pense que j'ai tout pour être heureuse, qu'il suffit juste que je fasse ce fameux lâcher prise et que voilà, je fonce en fait, que la vie elle n'est pas compliquée, c'est moi qui me crée des complications. Donc c'est à portée de main et même si pour l'instant ben, j'ai des moments de bonheur, mais je suis toujours dans cette difficulté, dans cette remise en question, un peu ce chamboulement, je pense que je peux y arriver et voilà, comme tout le monde d'ailleurs, on peut tous y arriver à être heureux et on a tout ce qu'il nous faut, même si des fois tout nous paraît perdu d'avance. Je pense que les épreuves, elles sont là pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer et sans les épreuves que j'ai vécues et que je vivrai, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas savourées de la même manière et que j'aurais pas vécues de la même manière. Donc c'est important de saisir même des mauvais moments pour pouvoir les tourner dans une bonne perspective et un bon avenir, quoi.
Totalement. Et puis, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui t'écoutent, même si je sais que c'est très compliqué parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Mais bon, j'aime bien cette question. Donc, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui?
Je pense que si elles ont vu cet épisode, c'est qu'elles sont aussi perdues un peu dans leur vie, qu'elles se mettent beaucoup de pression aussi, qu'est-ce qu'on met beaucoup en question.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Et je pense que tout simplement, il faut arrêter de se poser des questions puisque ça ne sert à rien, on n'aura pas les réponses. Les réponses, on les aura quand on aura arrêté de se poser des questions et qu'on aura fait les choses et qu'on sera dit, en fait, ce n'était pas si compliqué que ça, il fallait juste que je le fasse. Et juste de vivre le moment présent, d'arrêter de vivre trop dans le passé ou dans le futur. Parce qu'après, c'est dans ces moments-là où, au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi j'ai pas profité. En fait, j'étais trop bien à ce moment-là, je me posais trop de questions. Et juste de vivre au moment présent et de pas hésiter à savourer ce qu'on a, la famille, les amis, à oser faire ce qu'on aime, parce qu'au final, on s'en fiche. C'est vrai que c'est facile à dire parce qu'on a toujours le regard des autres qui nous pèse, on a toujours peur qu'on se moque de nous, etc. Mais on vit que pour nous parce qu'au fond du fond, les gens s'en foutent de ce qu'on fait. Oui. Clairement, ils s'en foutent.
Complètement.
Personne à la rue qui un jour nous a dévisagé parce qu'on portait peut-être quelque chose d'extravagant ou je sais pas moi. Bah, là, sûrement qu'aujourd'hui, je sais pas, elle est sur son canapé et qu'elle nous a totalement oubliés. Et puis, combien même, cette personne-là, elle ne paye pas notre loyer, elle ne fait rien pour nous. Donc, juste vivre ce qu'on a envie de vivre. Et au pire, les autres, on s'en fiche. Ils aiment, ils n'aiment pas. C'est pas grave. Tant que nous, on est heureux avec ce qu'on fait et qu'on a des gens autour de nous qui nous rendent heureux, qui nous rendent bien, on s'en fiche du reste, quoi. Donc, juste de foncer.
Merci beaucoup, Clara.
Et merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je t'invite dès aujourd'hui à soutenir Bouteille à la mer en mettant 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Tu peux aussi venir t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram de Bouteille à la mer que tu retrouveras en description. Pour me donner des idées de sujets à aborder, témoigner toi-même sur une thématique en particulier ou me contacter pour partager ton témoignage dans une interview sur ton parcours, sur tes combats, sur ton vécu, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse bouteillealamer-6podcast@outlook.fr. Merci encore pour ton écoute et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer.